Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. C'est avec hâte que j'enregistre ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis content de pouvoir transmettre de nouvelles choses. Je crois que je relève la pente. Et voilà, je suis content d'être ici avec vous pour plusieurs raisons qui vont être exposées au fil de ce podcast. Et voilà, pour introduire, j'ai pas grand chose d'autre à dire si la note de la semaine. Très compliqué en termes d'objectifs. D'ailleurs, je sens que je viens un petit peu au bout de ma logique de notation par semaine. En fait, c'était une semaine globalement sous le titre du salon infirmier, donc où j'ai fait une conférence et puis même je me suis baladé dans le salon. Donc, j'ai pas fait grand-chose de plus. Je m'étais donné des petits objectifs, mais bon, noter sur 10 trois objectifs différents, c'est assez compliqué. Je pense que par rapport à ma satisfaction de la semaine et à quel point je l'ai géré et j'ai atteint mes petits objectifs, je pense qu'on est sur une bonne note, donc entre 7 et 9 sur 10. Maintenant, je ne sais pas, ça fait quelques semaines que je trouve qu'il est un petit peu moins juste de noter sur 10, parce que voilà, quand on a juste 3 cases à cocher, est-ce qu'un 9 sur 10 a du sens? En tout cas, je ressens moins en ce moment. Mais donc, ça reste une bonne semaine, si je dois conclure sur une introduction. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Toujours dans la même veine des derniers épisodes, j'ai moins envie de raconter vraiment ce que j'ai fait, mais plutôt de partager des choses. Et aujourd'hui, je vais partager des choses par rapport à ce salon. Et par rapport au développement personnel, j'ai quasiment pas travaillé sur la thèse cette semaine, donc je changerai rien. Je pense qu'il n'y aura pas de rubrique thèse cette semaine, ou alors je fais la rubrique thèse dans l'introduction. Concrètement, j'ai avancé sur l'article numéro 3, revue de littérature sur les articles qui proposent une mesure de la confiance. J'ai avancé sur les résultats. Je ne travaille pas assez dessus par rapport à ce que je souhaiterais, et il faut que je travaille plus dessus les prochains jours. Et voilà, surtout qu'il y a une soumission à une journée éthique liée à la confiance en santé, donc une participation orale dans une communication scientifique orale qu'il ne faut pas que je rate parce que c'est très précisément dans mon thème. Et donc il faut que je soumette quelque chose et j'aimerais soumettre quelque chose en lien avec cet article-là. Donc la semaine prochaine, gros point d'avancement sur cet article pour et l'avancer sur sa version publiable dans un journal et avancer sur la version soumissible que je pourrais soumettre dans cette communication scientifique, cette journée de l'éthique, de la confiance en santé, quelque chose comme ça. Parce que la deadline est tout simplement fin de semaine prochaine. Donc voilà, ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses sur ce projet. Vis-à-vis de ces projets-là, j'ai perdu du temps en allant au salon. Mais bon, vis-à-vis de la carrière et puis de ce que je dois faire dans ma vie, c'est un moment qu'il fallait que je prenne. Mais du coup, forcément, sur des ordres d'idées, quand on se dit qu'il faut avancer sur certains projets selon certains ordres d'idées, j'avais pas en tête que le salon allait me prendre déjà du temps et aussi beaucoup d'énergie. Voilà pour ce qui est de l'introduction, conclusion de l'introduction, on est autour d'un 8 sur 10 de ressenti, plus difficilement marqué par vraiment des cases qui sont cochées, et la thèse, on avance un petit peu mais pas assez, et puis on va remettre un petit coup de boost la semaine prochaine pour, si ce n'est aboutir, bien avancer et relancer la machine sur cet article-là. Voilà pour ce qui est de l'introduction et de la courte rubrique thèse. Elle est courte parce que, comme je l'ai dit, on va passer à la rubrique entreprise qui a formé un peu plus de place. Même si, en soi, le fait d'aller au salon infirmier parler de ma thèse, je parle de ma thèse et je me fais autant de réseaux pour ma thèse que pour l'entreprise. Comme la logique depuis le début ce projet-là, tout ce que je fais peut avoir des retombées dans les deux côtés, que ce soit m'ouvrir à de potentiels financements qui financent ma thèse, ou juste avoir du réseau qui peut m'aider à, je sais pas, plus facilement avoir des populations qui pourraient répondre à mes études pour valider ma thèse, ou des rencontres avec des chercheurs qui sont intéressés, faire des collaborations. Voilà. Donc j'ai pas perdu de temps sur ma thèse. Le problème, c'est que ma manière de gérer ma thèse en ce moment, c'est de faire plutôt du réseau et un peu moins de écrire des articles. Mais bon, le nerf de la guerre, ça reste écrire des articles. Donc on va essayer de booster ça pour la semaine prochaine. Bref, au-delà de ça, nous pouvons passer donc à la rubrique entreprise. Dans cette rubrique entreprise, je vais vous partager mon expérience au salon infirmier. Ça va être un point de vue plutôt personnel. Qu'est-ce que ça m'a, en quoi ça m'a travaillé. Peut-être que ça va un petit peu être mélangé à la rubrique développement personnel, mais dans tous les cas, voilà, j'ai envie de vous partager mon vécu. Alors, pour remettre un peu de contexte, j'avais une prestation où j'ai dû faire une conférence au salon infirmier à Porte de Versailles. Sur globalement le sujet de ma thèse, et puis montrer, expliquer en quoi la confiance est importante dans le système de santé, et là en l'occurrence la confiance envers les infirmières et les infirmiers. J'étais déjà assez étonné, surpris du peu de monde qu'il y avait à la conférence. C'est peut-être lié au fait que je m'attendais à quelque chose de plus gros, ce qui est pas mal niveau gestion du stress, etc. J'étais prêt à vraiment être dans une salle fermée avec des centaines de personnes qui m'écoutent, tout le monde se tait. Et finalement, c'était plutôt comme j'aurais dû m'en douter, comme je m'en doutais, mais j'avais plutôt l'autre hypothèse comme étant la plus probable, l'hypothèse de la salle fermée. Bon, en fait, c'était plutôt une salle ouverte en plein milieu du salon, avec des chaises et du coup le brouhaha du salon. Donc ça n'empêche pas l'écoute. Mais peut-être que ça empêche l'attention, et puis que c'est moins, ça sacralise moins le moment, en tout cas pour moi. Et donc, un petit peu déçu du nombre de personnes, il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes qui m'ont écouté. Mais par contre, très content des idées que j'ai transmises. Justement, j'aurais aimé les transmettre à plus de personnes. Il y avait plusieurs enjeux à cette présentation. Il y avait l'enjeu de exposer en quoi le concept était intéressant. Déjà, intellectuellement, pour faire comprendre que c'est vraiment un sujet que je trouve important. Il y avait l'enjeu de faire un petit peu de storytelling, expliquer mon histoire, accrocher, rendre la conférence vivante, et puis bah, ça participe à mon personal branding, hein, d'exposer un petit peu qui je suis. On sait très bien que parler de soi, je le sais très bien, parler de soi favorise la confiance qu'on a envers les autres, mais bon, c'était moins manipulatoire que ça. Je pense que c'était intéressant, et puis que ça met dans le contexte aussi ma manière de voir la confiance, d'expliquer mon parcours et d'expliquer à quel point je suis attaché à ce concept. Et il y avait un enjeu de transmettre des informations quand même pour que les gens partent avec des idées, des choses qu'ils peuvent utiliser, ou voilà, en sortant de la conférence, en sachant un peu plus sur la confiance quand ils en sont rentrés. Mais il faut pas non plus tout dévoiler, tout dire, dire toutes les billes théoriques, parce que si les personnes n'ont pas de questions, ont l'impression de tout avoir compris et de pouvoir agir tout de suite sur la confiance, améliorer la confiance dans leur service, et ben ils n'ont plus besoin de moi. Et donc il y a un enjeu commercial et de pub. Et du coup, il faut se placer entre parler de soi, parler de son sujet, satisfaire ma curiosité intellectuelle de partage, la curiosité intellectuelle des autres. Et un enjeu financier où il faut en donner assez pour interroger et susciter la curiosité, mais pas trop pour avoir quelque chose à vendre derrière. Donc tous ces enjeux-là m'ont mis une pression supplémentaire à une prestation de juste parler à des gens. Il y avait parler à des gens, mais il y avait parler avec tous ces enjeux, essayer de remplir toutes les cases. Ensuite, quand ça s'est mené, ça s'est plutôt bien déroulé. En tout cas, moi, j'ai transmis ce que je voulais transmettre. J'ai tenu les timings quasiment parfaitement selon ce qu'on s'était dit. Je suis satisfait de ma prestation en général, puisque j'ai fait des essais un petit peu tout seul dans mon bureau. Et c'était selon moi la meilleure version de la conférence, donc là où j'ai mieux transmis les anecdotes, rajouté le plus d'informations possible. J'ai mis un peu plus de temps que... Non, justement, j'ai parlé plus vite, donc j'ai mis un peu moins de temps à faire cette conférence en live plutôt que la faire chez moi. Je pense que le stress amène à ce qui est un peu plus... un débit de parole un peu plus gros, et donc m'a amené à voilà, parler 5 minutes de moins, mais... C'est pas dans ce genre de choses, de ce que j'ai compris, c'est vraiment pas dramatique. Vaut mieux limite faire moins que plus, parce qu'on finit, on a le temps de discuter avec les gens. Bon, faut pas faire 20 minutes de moins, parce qu'on se dit qu'on m'a payé pour rien, et qu'on est venu pour rien. Mais là, 5 minutes de moins, c'est limite parfait, parce que j'étais plutôt un peu trop long qu'un peu trop court. Donc là, je suis plutôt un tout petit peu trop court, mais en fait, ça tombait bien dans, ça tombait bien dans les objectifs. Donc c'est une première prestation finalement liée à ce projet-là, qui ne va pas me payer ma thèse, mais j'en suis satisfait. La personne avec qui je suis associé a été satisfaite aussi. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un tel niveau de stress que la récompense à la fin de juste ne plus avoir le stress n'était pas suffisante. Donc c'est... En toute humilité que je dis ça, mais je veux dire, je crois qu'il n'y a rien qui m'aurait satisfait autre qu'une standing ovation et que tout le monde m'achète mes formations. Parce que j'ai tellement stressé que ma seule manière d'avoir un rapport sur comment j'ai vécu mon expérience positive, c'est que l'issue soit extrêmement positive. Et l'issue, je pense, en termes de qualité de processus est extrêmement positive, mais en termes de résultat, elle n'est pas extrêmement positive parce que bah, j'ai pas eu de questions d'ailleurs après, ce qui m'a un peu déçu, pour être franc. Étonné aussi, mais le sentiment derrière, c'est surtout de la déception. J'espérais susciter, j'espérais pouvoir échanger. Je m'étais pas préparé aux questions tellement justement je sais que je suis prêt aux questions. Parce que enfin, la confiance, c'est un petit peu ma vie quand même depuis des années. Donc j'attendais juste de voir comment les gens comprenaient. Et je sais pas, je trouve que les questions, c'est quand même annonciateur d'une certaine curiosité. Et donc voilà, j'ai eu peur de pas accrocher les gens, même si en discutant, en demandant des feedbacks à plusieurs personnes, on m'a dit que les gens étaient plutôt à fond, même s'ils étaient peu, les peu qui étaient là étaient à fond. Ils ont pris des notes, ils ont pris mes diapos en photo. Je voyais les gens dodeliner de la tête. Quand je parlais, donc ça me semblait assez, assez intéressant. Donc peut-être que l'explication, c'est que justement, c'était très clair et que vu que j'avais bien réfléchi tout ça en bloc et en une histoire à raconter, bah quand on est à la fin de l'histoire, voilà, on a apprécié ou pas, mais il n'y a pas forcément de questions. Quand on lit un livre qui raconte une histoire, il n'y a peut-être pas forcément de questions. J'ai du mal, j'ai toujours du mal à me dire que bon, bah, c'était une copie parfaite, donc il n'y a même pas de questions. Je trouve qu'il faut même éviter des conclusions de ce style-là, mais tout me mène à penser qu'en tout cas, s'il n'y a pas eu de questions, c'est pas que c'était incompréhensible et qu'il y a au moins eu des gens qui ont compris et qui étaient intéressés. Maintenant, peut-être pas assez, ou peut-être que justement, j'ai pas laissé assez de petites billes, de petits pièges dans lesquels tomber, parce que je sais que c'est des choses qui se font, même en formation. Je pense qu'il est important de laisser des petits pièges pour que les personnes aillent dedans et que ça fasse émerger les questionnements pour les personnes. Ce qui n'a peut-être pas été assez bien fait. Mais voilà, globalement, je suis satisfait. Mais sur les conséquences, pour l'instant, à ce jour, et donc c'était début de semaine, et là on est fin de semaine, le jour où j'enregistre le podcast. J'ai toujours pas de retour de personnes qui sont intéressées par la formation, etc. Donc le côté pub, soit ça met du temps, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a échangé, c'est les former dans le milieu de la santé met du temps, surtout quand on est à des niveaux structurels, hôpitaux, etc. Donc peut-être que j'ai fait émerger des graines et que ça va tomber plus tard, mais voilà, rien de faramineux et tout simplement personne qui est venu me voir après pour dire ah c'est intéressant, serait bien qu'on travaille ensemble. Voilà globalement pour ce qui est de la conférence. Maintenant il y a d'autres choses que je voudrais partager par rapport au salon. Donc oui par rapport au stress déjà de cette conférence et puis en fait au stress général, faut savoir que rentrer à Porte de Versailles, un salon, moi j'ai habité pas loin de Paris et donc j'y suis allé plusieurs fois faire des salons en famille avec mes parents. Petit, et pour une fois rentrer dans ce salon seul et se dire que je suis plus visiteur mais je suis intervenant et ce sera moi le mec au micro devant les personnes, ça met un gros coup de stress. J'ai de moins en moins peur de parler en public parce que bah, je m'y projette et puis je l'ai déjà fait. J'ai des expériences de plus en plus conséquentes sur le sujet. Donc j'ai de moins en moins peur. Mais là, si on accumule les enjeux de ce que représente cette conférence et le fait de se dire, ah là, je suis à Paris, j'essaie de bien m'habiller, j'étais en costard, ce qui n'est pas dans mon habitude. Donc je me dis, oula, d'accord, là, je me prête un petit peu trop peut-être au jeu du businessman conférencier, etc. Sachant que c'est pas encore rentré totalement dans mon identité, que c'est moi et que je suis à l'aise à faire ça. Même si je pense que dans les faits, je le suis plutôt à l'aise. C'est un problème plutôt d'identité, de croire que je suis ce type de personne. Voilà, grosse pression, beaucoup plus que d'habitude pour parler en public. Parce que je trouvais que c'était un sujet qui était assez réglé. Voilà, j'avais plutôt plus trop peur de parler en public. Mais bon, quand on rajoute des enjeux et un contexte, ouais, grosse pression qui a beaucoup joué en fait sur tous ces événements et ce qui m'a amené à avoir des difficultés à démarcher, qui est l'autre sujet du salon. Le but c'était de faire une conférence, mais du coup c'est aussi de réseauter, d'aller voir les gens. Je m'en suis servi comme d'un exercice pour aller voir les gens, sachant que être seul, bon, j'ai pas été tout le temps seul, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui est venu me voir pour ma conférence, mais le but c'était pas qu'il me tienne la main pour aller voir les gens, donc le jour de la conférence j'étais un petit peu avec lui, et le lendemain j'étais au salon seul, et je m'étais donné pour objectif de réseauter et de donner 10 cartes. Je sais pas ce que ça représente pour vous, aller voir 10 stands, donner 10 cartes, pour moi c'était beaucoup. Clairement, quand je suis arrivé avec le stress de la conférence, je me sentais pas du tout d'aller voir les gens, pas du tout. J'avais juste envie de dire mon truc et de rentrer chez moi. Mais bon, non, j'ai pas payé ma place, mais j'y étais. C'est quand même un salon qui représente le domaine dans lequel je fais ma thèse et dans lequel bah, je fais mon business finalement. Donc il fallait que je me montre et que je monte des cartes. Mais j'étais un petit peu ouais, glacé par le stress de démarcher. Déjà, socialement, en fait, ça m'a beaucoup renvoyé, et c'est pas grave si c'est mélangé avec le développement personnel, parce que j'ai un truc plus précis pour le développement personnel à vous partager. Tout ça a renvoyé des sujets de comment je me sens en société, de mon syndrome de l'imposteur, qui n'est pas, sincèrement, de ce que j'entends. Il n'est pas énorme mon syndrome de l'imposteur, je sais à peu près où me placer, mon ego est assez stable logiquement, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où je sens que ça fait plusieurs fois que je suis bon et meilleur que les autres, et d'autres domaines où je sais que je suis pas bon et moins bon que les autres, et ça ne me pose pas forcément de problématiques. Mais là donc, ça a ravivé un petit peu des sujets par rapport à ma sociabilité, notamment le fait que je me définissais peut-être, mais je suis en train de faire une espèce de transition, comme quelqu'un de timide et qui n'aime pas parler aux gens. Et en fait, la phrase précise, c'est pas une zone de confort et c'est pas une zone qui me prend peu d'énergie que de parler aux gens. Et en fait, il y a deux choses différentes. Il y a le fait que ce soit difficile de parler aux gens et qu'on soit inefficace. Et je pense pas que je sois inefficace, je pense que je suis socialement apte. C'est pas quelque chose dans lequel je suis confortable, c'est quelque chose qui me prend de l'énergie et me renvoie souvent une image de moi que j'aime pas. C'est-à-dire que quand je suis avec des proches, etc., tout va bien, mais dès que je suis socialement avec des gens que je connais moins, je vais être très critique sur moi-même. Et donc, quand je rentre chez moi, je vais globalement me détester, me dire, ah, t'es paru, tu t'es montré comme ci, tu t'es montré comme ça, t'as paru arrogant, etc. Mais je pense, et parce que beaucoup me le disent, que je suis quand même, ça se voit pas, et socialement, ça roule bien. Donc, ce que j'ai compris, c'est que il faut quand même que j'arrête de croire que je suis inefficace socialement. Peut-être d'accepter que c'est pas mon truc et que je ne serai jamais la personne qui ira parler à tout le monde et qu'on aimera bien. Mais je croyais que j'étais inefficace et il faut que justement, en essayant d'avoir un ego bien placé, que je parte du principe que socialement, ça va. Et donc j'ai le droit d'avoir confiance en moi pour aller voir les gens. Mais j'ai aussi le droit de considérer que c'est pas totalement mon truc et de pas devenir totalement extraverti. Donc j'aimerais passer d'une identité de timide à réservé ou de peureux social à juste introverti et être à l'aise avec son introversion. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus dans la lignée de qui je veux être et qui je crois être. Donc voilà, ça a ravivé des choses, ce qui fait que au début, je voulais pas du tout transmettre. Enfin, en fait, je savais qu'il fallait le faire, mais quand je suis arrivé et que j'avais déjà le stress de la conférence, je me sentais pas du tout d'aller réseauter. Donc j'ai quasiment, j'ai quand même, je suis quand même passé sur deux ou trois stands. Et j'ai fini par transmettre des cartes et en fait ça s'est passé totalement par curiosité, c'était fluide, ça s'est bien passé et ça m'a mis un petit peu en confiance. Il y a une personne qui m'a reconnu de LinkedIn, donc c'est la première. Très étrange, j'allais chercher un sandwich chez Paul et on m'a reconnu, on a discuté et j'ai pu filer une carte dans ce contexte-là. Donc ça m'a mis en confiance. Déjà, première fois que je suis reconnu par rapport à LinkedIn. Bon, je suis quand même. Il y a un biais de sélection parce que je suis quand même au salon de la santé. Donc on est dans un milieu dans lequel les gens se connaissent mieux. On est dans un réseau. Ça montre quand même que je commence à avoir une micro-place dans ce réseau, mais que je commence à m'insérer dans le réseau, ce qui est en fait le plus important, hein, je pense. Il faut être dans les discussions et il faut que. Les gens ont une connaissance un petit peu abstraite du réseau, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mémoire collective où chacun connaît un petit peu le réseau et le but, c'est que derrière confiance, il y ait mon nom et que dans le champ de la santé, quand quelqu'un dise confiance, il y ait un moment mon nom qui sorte ou. Enfin, mon nom, vraiment, c'est pas avec ego que je dis ça, c'est vraiment. Ah, confiance. Ah, bah, j'ai vu un mec sur LinkedIn qui fait ça. Ça pourrait être intéressant. On l'appelle. C'est juste ça. Il faut avoir une place dans les discussions et dans le réseau. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et je me suis du coup rendu compte de la puissance des réseaux. Et je me suis aussi rendu compte que il faut vraiment que j'arrête de me prendre pour un influenceur et que je me prenne plus comme un entrepreneur ou comme un commercial. J'aime pas me sentir comme un commercial, mais comme un prestataire de service. Et que donc ma course au clic et au like, elle doit pas être si croissante que je le souhaite, parce que mon modèle économique, c'est pas d'avoir plein de vues pour faire des pubs et des placements de produits, ce qui est grossièrement ce qu'on peut admettre comme modèle économique d'un youtubeur ou un influenceur, appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis pas rémunéré au nombre de likes et au nombre d'impressions, je suis rémunéré au nombre de personnes qui sont intéressées par ce que je vends. Et donc ce que je fais, c'est une vitrine. Et ça m'a rappelé le fait que j'ai que 3000 personnes sur LinkedIn qui me suivent, oh, ça dépend des comparaisons qu'on fait, c'est énorme par rapport à ce que j'avais avant, c'est très peu par rapport à certaines personnes sur LinkedIn. Mais en fait, sur 3000 personnes, si 10 personnes me donnent 1000 euros par mois, je fais 10 000 euros par mois. Donc c'est simple, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir 100 000 personnes qui me suivent. Mais je suis content parce que c'est ce que je cherche à faire justement en agissant. Mais je me suis pris en pleine tête le concept de cible qualifiée et le fait qu'on peut se faire de l'argent avec peu d'abonnés et que le but c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de clics, mais de savoir les entretenir et puis voilà, de faire l'image, etc. Donc en fait, tout ça me conforte finalement dans mon processus et m'a fait dire que LinkedIn, il ne faut pas lâcher, que ça continue et qu'on rencontre des gens très intéressants grâce à LinkedIn. D'ailleurs, aparté, petite dédicace à Gary que j'ai rencontré cette semaine grâce à LinkedIn et c'était une très belle rencontre, mon premier contact professionnel qui écoute le podcast. Donc intimidant parce que je me dis, ah d'accord, la personne en face de moi sait très bien ma vie, elle sait que j'ai limite, enfin je sais pas à quel point Gary t'écoutait ça, t'écoutes les épisodes souvent, mais du coup j'ai pas mesuré le fait que si je parle à des gens professionnellement qui écoutent mon podcast, en fait ils connaissent beaucoup de ma vie professionnelle et donc beaucoup de ma vie parce que beaucoup de ma vie c'est pas mal ce que je dis dans le podcast. Je masque quand même beaucoup de choses de ce qui est vraiment personnel. Mais bah voilà, On sait que j'ai passé des moments moins bien, on sait que je fais des efforts sur ma santé mentale, on sait si j'ai pris ou arrêté la salle, le sport, si je suis inefficace en ce moment. Donc c'est très galvanisant et d'ailleurs ça me remonte le moral et en fait ça m'a fait un bien fou en fait de rencontrer quelqu'un déjà personnellement avec qui je m'entends bien et puis qui écoute ce que je fais quoi. Voilà. Un grand merci et ça complète le fait que LinkedIn c'est vraiment très puissant à petite échelle et qu'il faut arrêter d'essayer d'avoir le plus d'abonnés le plus rapidement possible, mais continuer. Et en fait, je pense que s'il devait y avoir un titre à cette saison, c'est Trust the Process. Et c'est continuer. Pas essayer d'accélérer tout le temps. Juste continuer. Patience. Discipline. Et voilà, si on pense qu'on a un rythme de croisière, tenir le rythme de croisière jusqu'à ce que ça fonctionne. Mes proches me disent souvent, tu sèmes des graines et il y en a bien une qui va pousser. Et en effet, je sème des graines et juste, j'espère que ça pousse plus vite. Mais il y a un moment, il y en a bien une qui va pousser. On sème, on arrose, on attend. On sème, on arrose, on attend. Donc voilà. Gros sujet autour du réseau cette semaine, de belles rencontres. Et donc j'en reviens au salon. Je m'étais donné pour objectif, parce que j'avais besoin d'un objectif, parce que j'étais assez stressé de la manœuvre, de donner 10 cartes. Donc finalement, j'ai fait. Voilà le gros aparté pour expliquer pourquoi 10 cartes c'est beaucoup pour moi. Aller voir 10 stands, 10 inconnus et surtout me vendre. J'ai déjà fait des petits défis, aller voir des gens dans la rue. J'ai pas fait des filles parce que je trouve ça un petit peu déplacé, puis ça me stresse un peu. Et le fait est que je suis en couple depuis plusieurs années, donc depuis que je me sens plus à l'aise socialement, j'ai pas été célibataire, donc voilà. Je suis pas allé chercher des numéros en pleine rue. Mais j'ai déjà, par exemple, essayé de demander des places pour rentrer à Disneyland, parce qu'on peut demander les places des sortants pour rentrer. Voilà. Mais c'est interdit, c'est illégal, je ne vous recommande pas du tout de le faire. Mais c'est possible que je connaisse des gens qui l'aient déjà fait. Et j'ai demandé. Et dans ce cas-là, on doit parler en anglais et on doit aborder des dizaines de personnes. Donc je connais un petit peu ce jeu-là de aller se mettre une pression et puis une fois qu'on parle à une personne, ça va. Mais clairement, c'est pas quelque chose de. Je veux dire, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais à l'aise, ça voudrait dire inefficace. En fait, finalement, je suis à l'aise une fois que je suis dedans, parce que je me laisse aller à mes curiosités, parce que ma curiosité depuis toutes ces années m'ont amené une culture que j'appellerais pas culture générale, mais une culture de ce qu'est la vie, parce que culture générale, il y a peinture, film, musique, et je suis finalement pas très bon dans ces sujets-là. Par contre, à force d'être curieux sur le métier des gens et de discuter avec les gens, et bah, je peux normalement tenir une discussion assez facilement. Je suis à l'aise dans l'exercice, mais par rapport à ce que je ressens en moi, voilà, c'est pas quelque chose dans lequel je me sens bien. C'est quelque chose qui est stressant, en tout cas avant. Bref, beaucoup d'apartés, mes excuses. Mais j'avais envie de parler aujourd'hui, donc j'espère que ça s'entend. Et que ce sera pas un podcast trop embêtant à suivre. Je vais essayer d'être concis du coup sur la fin. J'ai fait 10 partages de cartes. Et eh bien rien de rien de très important à transmettre sur ces cartes. Sauf voilà, en fait, ça m'a plus apporté sur qui je suis socialement, faire ce premier cap, que vraiment des ouvertures, des gens qui sont super intéressés par mon truc. Tout le monde est un petit peu là pour se filer sa carte, tout le monde est là pour s'échanger des numéros, on les prend sans trop savoir pourquoi, donc ça me semble pas anormal que personne me soit sauté dessus, mais bon, voilà, je pense que s'il doit y avoir des retombées, c'est après, et puis les retombées, en fait, il y a une sorte d'énergie cinétique, j'ai l'impression, ou comme si on chargeait une attaque, je charge un Kamehameha, et du coup, je mets du réseau, des actes, des actes, des actes, qui un jour feront que ça marchera et que ça marchera bien. Donc c'est vraiment une construction de carrière finalement que je fais. Et donc bah, c'est pas en mettant une brique qu'on finit une maison, par contre on avance un mur. Donc j'essaye de continuer à avancer mon petit mur de briques. J'ai fait des rencontres qui moi m'intéressaient, des gens que moi j'avais vus sur LinkedIn et j'étais content d'échanger. Il y a des gens que je suis content qu'ils aient vu ma tête et qu'ils aient vu mon nom parce que je sais qu'on risque de se revoir. Mais rien d'exceptionnel et puis surtout rien de qui va se faire en quelques jours. Je pense que les gens finissent leur salon, revoient leur carte ou pas, et puis échangent. Donc voilà, sur 10, si j'ai une personne qui me rappelle, je pense que ce sera gagné. Et dans tous les cas, c'est gagné parce qu'on a vu ma tête. Et voilà, je rentre un petit peu dans la discussion, dans ce réseau-là. Quelques trucs en plus sur ce sujet du salon infirmier. J'ai compris des choses. Donc c'est pour ça que c'était gagné, parce que y a aussi un autre impact que ça a fait de faire une conférence. C'est que on se rend compte de l'élan dans lequel les gens vont, et en fait on a une impression du marché. En fait, on est avec les gens qui travaillent dans le domaine et on peut se rendre compte des idées, des choses qui manquent, qu'il n'y a pas, et avoir une petite sensation de ce qui se passe dans le marché pour aller dessus. Et donc il y a quelque chose qui est extrêmement visible. Et donc là, ça n'a pas été une analyse fine de sortir ça, mais c'est l'impact des IA dans la santé. J'ai été étonné et déçu de voir que au premier étage, donc en fait le salon était dissocié en deux étages, un qui était Santé Expo, donc le salon de la santé, et l'autre qui était le salon infirmier, donc les salons de infirmiers, des sciences infirmières, et puis des choses qui sont reliées. Et donc quand même dans le salon Santé Expo, donc le salon de la santé, il y a une écrasante majorité de boîtes qui sont associées à l'IA, en fait. Que ce soit pour la gouvernance, pour la gestion des données, pour l'organisation, la logistique des hôpitaux, des organisations, mais aussi des outils, par exemple des outils d'analyse d'expérience patient, voire des chatbots, des gens, enfin des bots qui sont là pour accueillir, pour rediriger les patients, etc. Et évidemment que c'est intéressant, évidemment que je renie pas l'utilité, que ce soit économique, que même logistique, mais du coup je me dis que il y a un train dans lequel, et on le sait tous, mais dans lequel il faut sauter, et je m'attendais pas que ce soit à ce point dans le cadre de la santé, mais les IA dans le monde de la santé arrivent en grande force, et je pense que ce serait fou de ma part de ne pas profiter, est-ce que j'ai le droit de dire profiter, de cette occasion pour travailler sur le sujet de la confiance envers les services et la confiance envers les IA. C'est quelque chose qui, je pense, m'aidera dans ma carrière. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas complexe, une littérature qui n'est pas complexe pour moi à appréhender, parce que bah, j'ai quand même tout le reste, et puis j'ai déjà lu quelques références dessus. Mais alors, je pense faire une formation, en tout cas construire et m'intéresser à la confiance envers les IA, même s'il faut que je me freine, et parce que en fait j'ai tendance à aimer faire des formations, mais pas réussir à les vendre. C'est-à-dire que j'ai ma formation confiance que j'ai pas pour l'instant vendue. Je suis en train de construire la formation Burnout que j'ai pas vendue, mais c'est normal. Et donc voilà, chaque chose en son temps quand même. Mais je pense que on va se dire que je vais avoir trois offres. Et peut-être qu'après je vais bloquer et qu'on arrêtera là, on essaiera plutôt d'améliorer. Confiance envers les professionnels de santé et les patients. Burnout, mais en fait santé mentale en général dans le milieu de la santé. Et IA. Confiance et acceptabilité des applications et des intelligences artificielles. Je pense qu'avec ça, je suis totalement dans l'air du temps de ce que je ressens dans la santé, parce que, du coup, voilà, énormément de sujets autour des IA, mais également un gros sujet autour de la santé mentale des professionnels de santé. Et en fait, je suis assez content. Alors, je ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre, mais ni à quel point ce que je ressens est facile à percevoir ou pas. Mais j'ai l'impression que j'ai une certaine compétence à percevoir ce que le milieu veut de moi, et en tout cas à percevoir les grandes idées qui émergent. Comme je l'ai dit, ça se trouve, c'est quelque chose que tout le monde sait, ça se trouve, c'est quelque chose qui est très simple à voir. Dans tous les cas, moi, je trouve, bah, ça a été très simple pour moi aussi, donc au moins je suis pas pire que les autres, de voir que... Certes, je vais dans la confiance, Mais il y a deux sujets sur lesquels je peux largement, j'ai largement des choses à dire, hein, parce que je suis quand même psychologue du travail, donc c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'ai des armes. La santé mentale dans la santé et les IA dans la santé. Et donc, bah, je commence à trouver mon identité et définir mes offres, qui sont l'IA dans la santé, la confiance dans la santé et la santé mentale dans la santé. Et voilà, donc le salon est bien pour faire du réseau, il est bien pour lever des barrières par rapport à soi, et il est bien pour ressentir le domaine, le milieu, et voir les grandes idées, les grands élans pour se placer, parce que le meilleur moyen de se faire de l'argent, c'est d'être en avance sur ce qui va être à la mode. Donc je vais essayer de... Là, je vais pas être en avance hein, sur les IA, mais... La confiance envers les IA, la relation avec les IA, l'acceptabilité des IA. Je suis pas du tout le premier, je sais, j'ai déjà vu des gens dessus, mais c'est le bon moment pour se placer sur ces sujets. Donc je fais peut-être une grave erreur à vous transmettre tout ça. Écoutez, ce ne sera qu'une compétition honnête. Je vous donne des chaussures et on fait la course ensemble. Mais voilà, je pense que c'est des sujets qui sont intéressants et que je vais creuser, bien sûr. Chaque chose en son temps et on va essayer d'avancer étape par étape. Mais disons que ma prochaine formation, c'est sur les IA. Et mes trois sujets, ça va être confiance, santé mentale et IA. Voilà. Tout ça me fait penser justement, que ce soit pour le côté réseau et que ce soit pour le côté, ah, je commence à avoir un dessin de sujet qui m'intéresse. Eh bien en fait, le besoin de créer un site internet commence à se faire ressentir. Parce que je commence à quand même avoir du réseau et des échanges avec des personnes qui sont de plus en plus importantes en termes de pouvoir, d'argent ou de grosseur de structure et de combien de personnes ils représentent. Et avoir un site quand même, ça le fait pour confirmer qu'on est quelqu'un, pas juste des réseaux et quelqu'un d'appuyé. Et ouais, je pense que je commence à avoir des liens, bah, avoir une conférence à montrer, donc potentiellement des photos, potentiellement un extrait, des extraits. Je commence à avoir des références que je peux mettre en avant, donc une rubrique Ils nous font confiance, et je commence à avoir une idée des offres qui peuvent me caractériser et des sujets que je défends. Et voilà, ça commence à être des informations qui sont limitées sur un compte LinkedIn et que en allant sur un site, on peut voir que j'ai des thématiques qui sont plutôt en avant, asseoir une charte graphique, asseoir mon nom en tant qu'entreprise. Voilà, je commence à ressentir le besoin, donc faire un site, ça va être aussi les prochaines étapes. Mais en fait, je pense que tout simplement, la prochaine fois que je rentre un petit peu d'argent et que j'ai un peu de marge, en gros, mon premier investissement, ce sera un site. Mais tant que j'ai pas eu un petit peu d'argent pour être un petit peu large pour investir, il n'y aura pas de site. Mais voilà, je pense que ça va être des étapes qui vont arriver finalement rapidement. J'ai le sentiment, et c'est peut-être une bonne conclusion pour la partie entreprise, que tout va arriver en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je vois que, comme disent mes proches, je récolte plein de graines, il y en a bien une qui va pousser, je sens qu'il y a plein de choses qui se font, je signe des contrats, je rencontre des gens, et il y a beaucoup de gens qui me disent que généralement tout arrive en même temps, et je suis sûr que tout va arriver en même temps, et que peut-être saison 3, justement ça marquera la saison 3, je vais vous dire je suis débordé, mais j'ai de l'argent, mais je suis débordé. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive, et je sais pas quoi. Et comme je vous dis, j'ai le sentiment que je suis en train, je sais pas, de mettre de l'argent dans une, je sais pas comment exprimer ça, mais de soit de charger une attaque qui va être plus je la charge, plus elle va être grosse, soit de mettre de l'argent dans une banque et ensuite la banque va me revenir une fois qu'on aura fini le tour. Mais ouais, j'ai l'impression de mettre des efforts dans quelque chose et que ça va tomber un moment et que plus ça avance, plus ça va tomber d'un coup. C'est peut-être ça finalement qui me fallait et qui fait que j'ai retrouvé patience, c'est la conviction profonde de savoir qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est peut-être un leurre, hein. Peut-être que j'ai construit cette conviction-là pour passer l'incertitude du moment. Dans tous les cas, c'est une solution qui est pour l'instant adaptée. De croire, Croire, quand je dis croire, c'est que je sais que je parle de croyance au terme psychologique du terme, mais moi j'en suis sûr, mais voilà, je suis capable d'admettre que c'est une croyance parce que y a pas de preuve, y a pas de preuve objective et il n'y a pas de 100%, mais j'y crois très fortement. Voilà pour ce qui est de la rubrique entreprise. Il y a peut-être la rubrique réseau, mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose sur les réseaux. Je continue LinkedIn et puis j'ai transmis le fait que, voilà, sur LinkedIn, on va continuer Trust the Process. Ouais, je n'ai pas spécialement de choses à dire sur les réseaux. Pour ce qui est des objectifs au niveau entreprise pour la semaine prochaine, eh bien, là, il faut avancer sur la formation du burn-out à destination des médecins et puis continuer à travailler avec l'organisme de formation avec lequel je suis associé parce que j'ai un certain nombre de semaines pour fournir les éléments. J'ai pas envie d'aller au max de ce jour de semaine parce que je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que j'ai assez maturé mes idées sur le sujet, donc il faut y aller. Je pense que la semaine prochaine sera très structurée, très claire. Et en fait, j'ai deux choses à avancer. J'ai toujours une formation et un article, chose que sur lesquelles je n'ai pas pu avancer du coup cette semaine parce qu'il y avait beaucoup de réseaux et de congrès et le salon infirmier qui m'a pris du temps et de l'énergie. Et là, la semaine prochaine, c'est limite le matin article, l'après-midi formation et le lendemain l'inverse pour essayer de ne pas être fatigué tout le temps sur les mêmes choses. J'ai deux tâches, il faut que j'avance vraiment bien sur ces deux tâches. Voilà, on est vraiment arrivé à la fin de la rubrique entreprise. Je vais pouvoir commencer par la rubrique développement personnel, en commençant par les objectifs de la semaine qui n'ont globalement pas été réalisés. Méditer tous les jours, c'est non. Avec les déplacements, je ne vais pas dire impossible, mais en fait, ça me sort tellement de ma routine. Et le stress est tellement grand que c'était compliqué de méditer. En fait, quand le stress est vraiment très grand, on n'a pas envie, sûrement à tort, mais voilà. J'ai pas médité tous les jours. J'ai pas noté mes habitudes, parce que pareil, déplacement fait que les habitudes sont trop mouvantes. Voilà, donc les objectifs n'ont pas été réalisés. Par contre, il y avait un troisième objectif, et là, ça va faire l'objet d'une discussion, qui était de se renseigner sur l'entraînement d'un marathon, et en tout cas, essayer de filer la métaphore vers le fait que le travail et une thèse, un financement et monter une carrière, c'est un marathon. Et du coup, pourquoi pas s'entraîner comme un marathon? Ça m'a beaucoup intéressé cette semaine. À vrai dire, quand j'ai eu du mal, quand je suis revenu du salon, j'ai eu un peu de mal à me concentrer, ça m'avait vraiment vidé. En fait, le stress plus les réseaux, ça m'a totalement vidé et j'ai eu beaucoup de mal à travailler du coup le lendemain quand je suis rentré, le lendemain duquel je suis rentré. Le seul truc que je me sentais de faire du coup, c'était de m'intéresser à ce truc-là. Voilà, le jeudi, je me suis intéressé à ça. Et donc, bon, j'ai pas fait de grandes recherches parce que justement, je suis beaucoup plus attaché à agir qu'à réfléchir parce que j'ai réfléchi toute ma vie dans la peur d'agir. Donc, pour une fois, j'essaie de partir sur les bases de ce que je sais, de compléter, de vérifier, mais de moins me prendre la tête et de plus être dans l'action. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien en ce moment et c'est ce qui me fait kiffer ce moment-là d'entrepreneuriat en tout cas. Donc, peut-être que je me base sur des choses qui sont fausses, qui sont controversées dans la science, etc. Sincèrement, tant pis. Je mets l'énergie que j'ai en ce moment sur le sujet et j'essaie déjà d'exploiter les connaissances que j'ai sur un sujet pour en faire quelque chose et arrêter de croire qu'on peut toujours faire mieux parce qu'on peut toujours faire mieux. Dans tous les cas, donc il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de passer 3 semaines pour être sûr de comment on entraîne un marathon. Bref, ça c'est pour le préambule. Maintenant, je me suis intéressé du coup et j'ai essayé de faire un programme d'amélioration de la concentration. Et il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées sur ma réflexion. Alors déjà, première réflexion, c'est que lorsqu'on prépare un marathon, on se prépare pour une échéance et être performant à un moment. Alors que là, on se prépare pour juste améliorer ses compétences sur le long terme. C'est pas spécialement différent, mais en tout cas sur la programmation, il n'y a pas spécialement de semaine de repos juste avant et puis de grosses variations pour vraiment être à fond le jour J, mais qu'il y a plutôt la logique d'amélioration à retenir. Il y a aussi le fait que certaines règles sur la course à pied s'appliquent vraiment parce que c'est un exercice physique et sont difficiles à mettre en œuvre et que du coup il faut plutôt filer la métaphore et essayer de fondamentaliser l'idée plutôt que d'appliquer. Par exemple, je sais que pour courir en général, il faut viser à avoir une grosse cadence de pas parce que les gros pas fatiguent. Bon, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à extrapoler précisément, mais en tout cas, ce que j'ai gardé de l'entraînement du marathon, c'est que il y a certaines zones cardio, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Je suis pas du tout un expert, je vous dis ce que j'ai compris, ce qu'on m'a transmis, et ce que je savais aussi un petit peu. En gros, à quel point vous êtes fatigué et selon à quel point vous courez vite par rapport à votre habitude. Et en fait, à ce qui paraît, il faut un gros volume d'entraînement en zone 1, c'est-à-dire à un BPM lent, c'est-à-dire dans une zone dans laquelle on se sent à l'aise de faire. Et déjà, en partant de ce principe, je me rends compte qu'il y a une première erreur que je fais, si on veut filer la métaphore, qui, ça se trouve, ne tient pas la route, c'est j'essaye d'être tout le temps à fond. Et en fait, quand on fait un marathon, enfin à fond, pas en sprint, mais d'être quand même une grande cadence par rapport à un objectif long. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on s'entraîne, et c'est pas comme ça que notre niveau de base va permettre d'être de plus en plus élevé. Par exemple, si on court à 5 km heure et qu'on est en zone 3, c'est pas en courant à 5 km heure pendant des semaines qu'on va finir par ensuite être à 6. C'est plutôt en étant à 3-4 km heure pendant des semaines que après il faut essayer. En fait, il faut essayer d'augmenter son niveau minimal plutôt que d'augmenter son niveau de base. Ce qui veut dire qu'en fait, quand moi je vais derrière mon PC et j'essaye de m'entraîner, enfin de m'entraîner, c'est pas un entraînement, mais de travailler à forte intensité, et du coup pour un effort long d'être quand même sur une zone assez élevée, je me trompe et c'est pas comme ça que je finirai par avoir de meilleures capacités cognitives. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, je me suis rendu compte que ce que je cherchais dans tout ça, c'est la capacité de me concentrer pendant longtemps. Et en fait, la concentration en psychologie cognitive, on peut plutôt le rapprocher de l'attention et la vigilance. L'attention long terme et la vigilance, c'est-à-dire à quel point on peut concentrer son attention, diriger son attention vers un stimuli, donc c'est-à-dire un concept, une chose précise. Et donc, voilà, ça m'a fait remettre un petit peu les pieds sur mes bases en psychologie cognitive. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Je veux les idées claires et je veux être à fond sur mes tâches pendant longtemps. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas du coup de l'attention et je veux avoir une meilleure attention? Et finalement, quand on fait de la méditation, est-ce qu'on n'essaye pas d'avoir une meilleure attention? Parce qu'on essaie juste d'arrêter de penser à plein d'autres choses, et on essaie de penser qu'à une seule chose, et cette chose diffère selon les styles de méditation, le corps, l'essence, sa respiration, une idée ou une visualisation. Et finalement, est-ce que ce que je recherche dans le fait d'avoir qu'une idée en tête et de pouvoir être reposé, ne pas reposer, concentrer sur quelque chose pendant longtemps, ce serait pas lié à un travail d'attention. Donc c'est mon hypothèse. Et donc je me suis dit, bah, comment on mesure l'attention, comment l'attention à longue durée est mesurée. Et en fait j'ai vu que c'était mesuré grâce à une tâche, en tout cas une tâche qui a été utilisée pour les personnes qui étaient à l'armée dans la Seconde Guerre mondiale, qui est la tâche Mackworth, Mackworth. Et en fait, c'est tout simplement une flèche autour. Pardon, je réfléchis pour essayer de bien transmettre. En gros, on regarde son écran, et sur son écran, il y a une boule, et cette boule est liée à une flèche, comme si c'était une horloge, comme si c'était la grande aiguille d'une horloge. Et comme la grande aiguille d'une horloge, elle saute toutes les secondes, sauf que des fois, elle saute deux fois. Donc c'est comme si elle sautait 2 secondes en une, elle saute de deux fois la circonférence qu'elle devrait faire. Et à ce moment-là, il faut cliquer sur sa barre espace pour dire, là j'ai vu que ça a changé, ça a sauté d'une manière plus grande que les autres fois. Et en fait, ça, c'est essayer où on fait cette tâche pendant 5 minutes, 10 minutes, mais potentiellement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et j'ai essayé de faire cette tâche 5 minutes et je me suis largement retrouvé dans un état méditatif dans lequel on se concentre sur un truc. Et à l'inverse de la méditation où on doit juste se concentrer sur sa respiration, là, on se concentre sur quelque chose sur lequel on doit être à fond parce que la différence est fine entre un sautillement normal et un sautillement anormal. Et du coup, il y a toujours une action et ça tient notre attention. Et du coup, c'est un petit peu plus simple que juste tenir sa respiration. Là, c'est comme si je devais vous dire, tenez votre respiration et un moment, votre respiration, elle fera un bruit et dans ce cas-là, vous devrez noter sur une feuille. Enfin bref, en gros, ça gamifie, ça rajoute un petit peu du jeu sur... sur un état méditatif. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, je pense que il y a plusieurs choses si on veut. Donc, tout ce que j'ai dit, voilà, la méditation, le fait que le marathon, il doit y avoir plusieurs travails de zone. Il y a aussi une autre idée de travail. Bon, c'est marathon, mais en fait, c'est travail quand on veut courir longtemps. C'est que, donc, il y a des fois, il faut savoir travailler, et même dans une plus grande partie du temps, il faut savoir travailler sur une faible zone cardio, c'est-à-dire ne pas se donner à fond, être dans une zone dans laquelle on est à l'aise et on a l'impression qu'on pourrait agir à l'infini. Donc, coller au travail, c'est travailler sans essayer d'être rapide, justement, mais travailler de plus en plus longtemps dans un rythme où on sent qu'on pourrait travailler toute la journée comme ça. Et là, c'est une grosse erreur que je fais, si on applique la métaphore. Et la deuxième manière d'améliorer sa course, c'est de faire du fractionné. Et donc là, c'est l'inverse, c'est être intense, mais court, et faire des pauses. Et en fait, je me suis dit, mon sujet, c'est l'attention. Je veux être attentif plus longtemps. Et je pense, et mon hypothèse, c'est que ça s'entraîne comme la course à pied. Donc, on va essayer de faire un programme dans lequel on fait et de l'entraînement zone 1, donc on travaille longtemps, mais à un effort modéré, plutôt même faible, et des fois où on travaille de manière courte, espacée de pause, dans lequel on essaye de travailler à fond. Et en fait, du coup, j'ai défini un programme où j'ai, sur 7 semaines, je vais essayer d'augmenter mes capacités d'attention et donc d'augmenter ma productivité. Ça m'amuse beaucoup parce que ça va me permettre de gamifier encore plus ma manière de travailler. Et donc je vais essayer de faire ce que je vais vous transmettre. Alors, j'avais un critère qui est le mien, c'est que il y a plusieurs choses et ça se trouve je ferai un jour si ça marche, ça se trouve je ferai un programme et je mettrai les références. Mais j'ai vu sur un site qui référençait un article, donc pas un article, un site qui référençait un article. Que les experts sont les experts plutôt, quand on regarde, c'est plutôt par exemple des joueurs d'échecs, savent rester focus jusqu'à 1 heure et demie. Donc j'ai l'impression qu'il y a un cap au bout d'1 heure et demie, être à fond et concentré pendant 1 heure et demie, c'est très bien, donc 90 minutes. Il y a un autre cap qui est généralement la moyenne des gens qui sont concentrés, c'est plutôt 45 minutes, savoir se concentrer 45 minutes sans faire autre chose. Donc je me suis dit, d'accord, j'ai une phase de départ. Et j'ai une phase d'arrivée. Comme je pense que mon attention, juste parce que j'ai fait des années d'études, est plutôt bonne par rapport à la moyenne, j'aurais pu commencer à 45, voire à plus. Mais par principe, je vais commencer le programme avant la moyenne des gens. C'est-à-dire que je vais faire des sessions de 30 minutes et faire des pauses toutes les 30 minutes. Donc en gros, c'est un système Pomodoro comme on connaît. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le système Pomodoro. C'est Pomodoro, c'est on travaille 25 minutes, on fait une pause 5 minutes. 25 minutes, 5 minutes, 25, 5. Et en fait, moi j'ai déjà essayé, ça marche pas vraiment. Je crois qu'il faut savoir se forcer à faire des pauses, c'est surtout ça. Parce que la première 25 minutes de la journée, on s'en fiche. Mais en fait, c'est en faisant ça qu'on va pouvoir tout cumuler, travailler plus. Et c'est ça que j'oublie. C'est que les pauses sont importantes dès le début et faut pas se dire je sens que j'ai besoin. Si on sent qu'on a, c'est un peu comme quand on a soif, si on sent qu'on a besoin d'une pause, c'est que c'est trop tard et qu'il faut plutôt essayer de faire des pauses pour à la fin de la journée être un peu plus performant. En tout cas, tout ça c'est des hypothèses que je vais plutôt confirmé. C'est pas totalement scientifique, hein, je suis pas en train de faire un groupe contrôle, etc. Mais voilà, je vous transmets ma réflexion par rapport à ce sujet. Et quelque chose qui n'est pas fait pendant le Pomodoro, c'est un Pomodoro adaptable et croissant. C'est-à-dire, on dit il faut faire 25-5, et on dit aussi il y a un format 55 minutes de travail et 10 minutes de repos. Mais pourquoi 25 et pourquoi 55? Et moi, vu que j'ai envie de le voir plutôt dans un entraînement, et ben en fait, je vais faire 7 semaines, une semaine 30 minutes, une semaine 40, 50, 60, 70, 80 et 90 minutes. Quand je dis 90, c'est-à-dire que je vais faire, enfin 30, 40, 50, 60, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'arrive le matin à mon bureau, je vais faire des sessions où je suis concentré 30 minutes, puis je fais une pause. Et ça va être la première semaine. 30 minutes, pause, 30 minutes, pause, 30 minutes, pause. Ensuite, la deuxième semaine, 40 minutes, pause, 40 minutes de travail, 30 minutes, pause, 10 minutes de repos, etc. Puis la semaine d'après, 50 minutes, puis la semaine d'après, 60, 70, etc. En gros, chaque semaine, je vais augmenter mes moments de concentration sans pause de 10 minutes pour passer de 30 minutes de concentration à 90 minutes de concentration. Et en fait, j'ai envie de faire ça le matin parce que les après-midi, c'est des moments où souvent j'ai des rendez-vous, où ils sont un peu plus incertains, où j'ai des déplacements, et du coup ça se prête pas vraiment à faire des pauses toutes les 30, 40, 50 minutes. Par contre, les matins, c'est des moments souvent qui m'appartiennent, où je fais des tâches qui sont longues, donc que je peux segmenter un petit peu comme je veux, et donc ça s'y prête bien. Donc mes matinées, ça va être plusieurs groupes de 30 minutes, 40, 50, etc., avec des pauses, et ensuite du fractionné. Donc par exemple, semaine 1, ça va être 4 fois 30 minutes de pause. Donc je me concentre à un effort modéré à 30 minutes de... Je me concentre pendant 30 minutes. Donc la première semaine, je fais plusieurs blocs. Précisément, la première semaine, je fais 4 blocs de 30 minutes, espacés à chaque fois d'une pause de 10 minutes. Et ensuite, je fais 4 sessions de 10 minutes de travail, espacées d'une minute de pause, à intensité élevée. Et donc, par jour, je vais avoir plusieurs blocs d'intensité faible, espacés de grosses pauses, et plusieurs blocs d'intensité élevée et de petites pauses, en me disant, je vais essayer d'entraîner mon cerveau en faisant du fractionné et de l'effort long sur une zone faible. Et donc, j'ai fait toutes ces réflexions espacées sur plusieurs semaines, où le nombre de blocs à vrai dire, diminue parce que je vais pas faire 4 blocs de 90 minutes le matin, c'est pas jouable. Mais je vais passer de 4 blocs de 30 minutes d'effort en semaine 1 à 2 blocs d'1h30 d'effort à concentration. Et le fractionné, c'est, je crois, de 4 à 5 blocs de 10 minutes parce que voilà, les semaines, enfin, les matinées peuvent pas faire 5 heures, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui fait varier mes matinées de 3 heures à 4 heures à peu près de travail en gérant bien mes pauses. Et donc je vais me lancer dans ce programme de 7 semaines pour essayer d'être plus productif et d'augmenter mes capacités d'attention et de concentration. Et pour mesurer ça, je pense que je vais m'attribuer des notes tous les jours de concentration, de fatigue et de productivité. Ce sera du qualitatif, malheureusement. Et je pense que à définir, et il faut peut-être que je code un petit truc pour le faire bien, je pense que je vais faire la tâche Mackworth, donc la tâche de l'aiguille qui sautille, pour vraiment avoir quelque chose de quantitatif, et essayer de voir comment je peux améliorer mes capacités d'attention, sachant que cette tâche, je ne sais pas vraiment comment faire. Soit je fais un temps indéfini et jusqu'à ce que j'en ai marre, mais ça me semble bizarre. Soit je prends déjà un temps assez long, donc peut-être 1 heure et demie, donc faire cette tâche vraiment très ennuyante pendant 1 heure et demie, et je vois mes résultats pendant 1 heure et demie. Ça me ferait faire 1 heure et demie de test, quelque chose de très embêtant. Par contre, ce serait peut-être le mieux. Je sais pas, je pense que c'est quelque chose à faire en début de première semaine. Potentiellement, le mieux, ce serait 2 fois par semaine, en début et en fin de semaine, mais sincèrement, 1 heure et demie, c'est beaucoup. Voilà, ça c'est encore en réflexion. Peut-être que ce sera, peut-être que ce sera 1 heure, peut-être que ce sera 1 demi-heure, et que on jugera juste le nombre de bonnes réponses et de mauvaises réponses. C'est en réflexion. Il y a aussi d'autres tâches, hein. J'ai vu la tâche SART. Et voilà, d'autres trucs qui me semblent mesurer un peu d'autres fonctions cognitives. Là, c'est vraiment, tu es devant une aiguille qui sautille et tu dois pendant 1 heure essayer de dire si c'est bon ou pas bon, enfin si ça saute normalement ou anormalement. Ça me semble assez marrant de le faire. Reste à déterminer ce qui est envisageable pour la mesure. Mais voilà, je vais essayer de m'entraîner en zone 1 et donc arrêter d'essayer d'être à fond tout le temps pendant 4 heures, mais plutôt d'être sur un rythme de croisière et d'essayer d'être sur ce rythme de croisière de plus en plus longtemps sur la première partie de la matinée et sur la deuxième partie de la matinée. Essayer d'avoir des moments où j'essaye d'être à fond, mais pas pendant 4 heures, pendant 10 minutes, puis pause, puis 10 minutes, puis pause, et globalement sur 1 heure, essayer d'être à fond à la fin, pour essayer de m'entraîner à m'améliorer sur mes capacités de concentration. Et ben voilà, ça me m'excite un petit peu, j'ai hâte d'essayer ce nouveau format, et les choses sur lesquelles il faut que je prête attention, c'est me forcer à faire des pauses. Parce que je pense que tout le processus sera raté si je me force pas à faire des pauses, et que c'est en faisant des pauses, par exemple au début toutes les 30 minutes, que je vais pouvoir à la fin de ma journée me sentir moins fatigué, plutôt, et c'est ce que je fais aujourd'hui, que de travailler 3 heures à fond et après avoir du mal l'après-midi. Mais oui, parce que si on prend l'exemple d'une course, si j'ai pas l'habitude de courir, je peux pas juste essayer de tous les jours essayer de courir à fond et de m'améliorer. En tout cas, j'ai compris que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc voilà pour ce qui est de mon petit programme, de mon développement personnel. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y aura pas d'autres rubriques parce que bah, en fait, il y a deux grosses choses qui sont passées. C'est le salon infirmier et ma réflexion pour l'entraînement de l'attention. J'ai hâte d'avancer, j'ai hâte de vous dire comment ça se passe. Ça se trouve, j'y viendrai pas à bout parce que ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai pas vraiment réfléchi sur cette semaine, qu'est-ce qui va se passer dans mes 7 prochaines semaines, est-ce que je vais partir en vacances ou pas. Je pense que si je repars en vacances, je reprendrai à la semaine d'avant. Par exemple, si je pars en vacances quand j'étais à 3 fois 50 minutes, eh ben, je reprendrai à 3 fois 50 minutes la semaine d'après. Mais voilà, je me lance pas ce gros défi officiellement, genre c'est sûr que je vais y aller, etc. Mais je vais commencer plusieurs semaines et voir ce qui se passe. Voilà. Sur ce, je réfléchis si j'ai rien d'autre à vous dire, mais je ne crois pas. Donc, eh bien, ah oui, si, les objectifs pour la semaine prochaine, niveau développement personnel, eh ben, ils sont très simples, hein. On va faire ce programme d'amélioration de la concentration et reprendre la notation et la réalisation des habitudes. C'est tout. Et ce sera très bien. Donc c'est très simple pour la semaine prochaine. Un article, une formation. Bon, c'est très simple, mais j'arrive pas à le dire. Un article, une formation, les habitudes et la concentration. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous remercie de m'écouter. N'hésitez pas, et comme je l'ai dit, de venir me voir, d'échanger avec moi, de me faire un retour sur le podcast, ça me motive vraiment. J'ai moins l'impression de parler juste à ma mère et à mes amis. Et bah, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'elle sera fructueuse. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout à lundi prochain, parce que merci Gary, je vous signale que les épisodes sortent tous les lundis. Donc, l'épisode de ce lundi est terminé. Je vous dis à lundi prochain. Et n'hésitez pas, bien sûr, à noter cet épisode 5 étoiles si vous pensez que ça les vaut. Moi, je pense que ça les vaut. Je vous remercie et à la semaine prochaine.